La semaine dernière, on soulignait la Journée internationale des droits des femmes. C'était le 8 mars dernier. Puis, on sera question un peu aujourd'hui dans le cadre de cette chronique du Centre de justice de proximité de l'Outaouais. On fera un peu d'historique, hein, journée qui a été décrétée par les Nations unies en 1977. On va s'intéresser aussi à ce qui se passe chez nous, au Québec et au Canada. Et pour revenir sur cette journée du 8 mars, on reçoit Maître Geneviève Graton, qui est directrice du Centre de justice de proximité de l'Outaouais, pour parler de cette journée-là, mais aussi du thème qui a été décrété pour l'année 2022, soit l'avenir est féministe. Geneviève, bonjour.
Bonjour, Sébastien.
On va faire un peu d'histoire, on va remonter dans le temps, on va se rendre en 1848 parce que cette année-là, c'était la toute première convention des droits des femmes. Ça se tenait à Seneca Falls, dans l'État de New York, aux États-Unis. Donc, entre 1848 et 2022, il y a sûrement beaucoup de choses qui ont changé, mais qu'est-ce qui a changé concrètement pour les femmes?
Bien, avant tout, je voudrais souligner mon admiration pour toutes celles qui sont venues avant nous, qu'elles soient célèbres ou inconnues. Ces femmes et ces hommes, parce que oui, il ne faut pas oublier les hommes qui ont soutenu et épaulé les femmes dans leur démarche, qui ont fait ce long combat pour que les droits des femmes soient reconnus, puis qu'on en bénéficie maintenant aujourd'hui. Dans le fond, pour que les femmes jouissent de tous les droits que l'on accorde à tous les êtres humains dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Mm-hmm. Mais pour répondre à votre question, je dirais qu'il y a eu des grands bouleversements positifs dans la jouissance des droits pour les femmes. On a acquis le droit d'exercer un métier, celui de notre choix, plutôt que les métiers traditionnellement réservés exclusivement aux femmes, comme infirmières, enseignantes et secrétaires, mais également le droit de recevoir et de disposer de notre salaire, ce qui, étrangement, n'a pas toujours été le cas.
Qu'est-ce qu'il y en est pour le Canada maintenant?
Bien, au Canada, il y a eu des mouvements féminins tels que les suffragettes pour revendiquer la reconnaissance puis la jouissance de certains droits, comme le droit de vote, le droit à l'avortement, le droit à un salaire égal aux hommes lorsqu'il y a similarité ou équivalence des diplômes. Mais c'est en 1918 que les femmes obtiennent le droit de vote au fédéral. Mais ça, c'est à l'exclusion des femmes d'origine asiatique et des femmes des Premières Nations. Mm-hmm. Mais en 1920, l'année suivante, le mouvement des suffragettes remporte une autre victoire importante et les femmes deviennent éligibles à la Chambre des communes. Mais il faudra attendre 1921, donc l'année qui suivra, donc seulement 2 ans après l'obtention du droit de vote, qu'Agnès McPhill, est la première femme élue à la Chambre des communes. Ça va faire 100 ans l'an prochain, donc c'est pas si loin quand on y pense.
Ça, c'est pour le fédéral, puis qu'est-ce qu'il y en a au Québec? Parce que c'est pas la même chose, là.
Bien, avant ça, j'aimerais vous dire que, puis là, je vais peut-être vous faire tomber de votre chaise, Sébastien, mais si vous ne le saviez pas déjà, les femmes autochtones au Canada ont obtenu le droit de vote seulement en 1969.
Hey, c'est récent dans l'histoire, c'est intense quand même comme chiffre.
Oui, mais quand même, au Québec, on n'a pas laissé notre place en termes de retard pour le droit de vote pour les femmes, parce que c'est seulement en 1940 que ça a été accordé. Puis, je ne sais pas pour vous, Sébastien, mais moi, ma mère est née dans les années 40. Je ne peux même pas imaginer qu'elle est presque née alors que les femmes ne pouvaient même pas voter dans notre province. Mm-hmm. Ma grand-mère, elle a 100 ans aujourd'hui. Puis, elle avait tout juste 18 ans quand elle a pu voter au provincial. Évidemment, elle n'aurait pas pu nécessairement voter avant, mais quand on y pense, c'est encore des gens vivants aujourd'hui qui ont vécu à une époque où les femmes n'avaient pas le droit de vote.
Ouais, quand on le réfléchit comme ça, ça prend une autre dimension, je trouve.
Je suis bien d'accord.
Donc, ça, c'est pour la date au Québec, mais il y a d'autres choses. On peut parler de salaire, entre autres. Ça ressemble à quoi chez nous?
Le salaire en termes d'équité salariale,
oui, c'est ça.
Donc il a fallu attendre 1996 pour qu'une loi sur l'équité salariale soit adoptée pour prévenir et réduire les inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Mais ça, c'est une loi fédérale.
OK. Donc, il y a de l'amélioration. Est-ce qu'on peut dire que tout semble beau maintenant?
Ben, pas tout à fait.
Ben non, c'est ça.
On croit pas nécessairement aux licornes et aux arcs-en-ciel, mais il y a eu d'énormes avancées comme le droit à l'avortement, le droit de vote, le droit d'exercer un métier de son choix, le droit au salaire égaux avec les hommes. Mais avec l'avènement de la COVID-19 en 2020, il y a eu quand même un recul de certains acquis.
Qu'est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de ça?
Bien, il y a un risque accru de violence envers les femmes depuis mars 2020. La COVID est venue exacerber des problèmes sociaux qui étaient déjà existants, comme la précarité économique. Ça crée du stress économique, surtout pour les femmes, parce qu'elles gagnent déjà moins que les hommes, puisqu'elles restent davantage à la maison pour prendre soin des enfants lorsqu'ils sont malades ou qu'ils font des cours en ligne. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
Oui.
Oui, hein? Je ne dis pas que les hommes n'ont pas participé. C'est le loin de là, mais on a pu tous observer que la prise en charge a principalement été faite par les femmes.
Mm-hmm.
Il y a aussi le fait que les femmes occupent majoritairement des rôles professionnels qui les placent en première ligne, tant pour les soins de santé que pour les emplois considérés comme des services essentiels durant la pandémie. Comme par exemple, les trois industries où le ratio femmes-hommes est le plus élevé au Canada sont les soins de santé et l'assistance sociale pour 82 % environ, les services éducatifs, 66 % et l'hébergement et la restauration, à peu près 60 % Puis on s'entend que ça a été les trois corps de métier qui ont été le plus affectés ou sollicités pendant la pandémie.
Absolument, oui.
Les professionnels de la santé sont en majorité donc des femmes, les infirmières, techniciennes de laboratoire médical, les allothérapeutes, des personnels de soutien comme les préposés aux bénéficiaires dont on a entendu vraiment beaucoup parler.
Mm-hmm.
Il a été également signalé que les stéréotypes de genre ont affecté la conception des équipements de protection individuelle. Là, je dois vous avouer que ça, c'est quelque chose que j'ai appris en préparant la chronique, là. L'équipement de protection est calqué sur l'anatomie des hommes.
OK.
Donc, étant donné que la conception de l'équipement repose vraisemblablement sur des proportions du corps masculin, les femmes trouvent peut-être que l'équipement leur convient pas ou fonctionne moins bien pour elles. Donc, ça les expose à un risque plus élevé de maladie et donc d'absence du milieu de travail et conséquemment de la réduction des revenus à gagner.
Okay.
En un mot, toutes ces situations décrites là, peuvent être un terrain fertile pour le harcèlement psychologique des travailleuses.
Mais là, Geneviève, il y a un autre point aussi qui mériterait l'attention de nos autorités, là.
Oui, saviez-vous qu'encore aujourd'hui, on en parle un peu dernièrement, là, mais je suis toujours surprise de me faire rappeler que les travailleuses du Québec reçoivent un salaire inférieur à celui des hommes, en moyenne 10 % de moins que leurs collègues masculins. Donc, à cause des rôles traditionnels que doivent assumer les femmes, elles travaillent en moyenne moins d'heures que les hommes. Ensuite, il y a les stéréotypes et préjugés sociaux qui font qu'il y a une concentration des femmes dans des emplois dits typiquement féminins ou des emplois sous-évalués. Donc, une caissière comparée à un emploi dit masculin, donc de manutentionnaire. Donc, le manutentionnaire va être mieux rémunéré que la caissière, par exemple.
Là, on parle de femmes comme si c'était une grande masse homogène, là, mais est-ce que dans la population féminine, il y a des groupes de femmes qui subissent davantage de discrimination au niveau de leurs droits sociaux, économiques que d'autres groupes?
Oui, tout à fait. Donc, selon Statistique Canada, la proportion de personnes immigrantes parmi le personnel aide infirmier, aide-soignant et préposé aux bénéficiaires au Québec, elle se chiffre à 26 % en 2016 comparativement à 15 % dans l'ensemble des autres professions. Et plus de 80 % étaient des femmes. Comme on l'a mentionné plus tôt, il y a une surreprésentation des femmes dans ces corps de métier-là. Donc, les interruptions de travail causées par la pandémie peuvent également être vécues plus durement par ces femmes-là, faisant partie de groupes racisés, alors que la plupart affichaient déjà des taux de pauvreté élevés avant la crise. Puis je ne veux pas entrer dans le sujet de la violence conjugale, sur lequel je pourrais m'étendre longuement et qui pourrait faire l'objet d'une chronique entière à lui seul, mais pour vous donner une idée, en 2021, au moins 17 femmes avaient été assassinées par des hommes dans un contexte de violence conjugale, contrairement à 8 en 2020. Le bond est gigantesque et vraiment inquiétant.
Au final, il y a des éléments plus tristes, comme on vient de parler. Il y a des éléments aussi pour se réjouir. Il y en a donc comme pour s'inquiéter, puis pour continuer la lutte aussi, là.
Oui, tout à fait. D'où l'urgence de la sensibilisation des femmes sur les services offerts par des structures comme la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ou le Centre de justice de proximité de l'Outaouais, mais je dirais également de tous les centres et des organismes communautaires venant en aide aux femmes. Et, il y en a plusieurs, là, autant dans votre région, en Outaouais, il y en a au niveau provincial. Donc, il s'agit de faire un peu de recherche pour en trouver.
Et bien, justement, on pourrait bien, se tourner vers le Centre de justice de proximité de l'Outaouais puis bien, prendre des formations chez vous.
Oui, je voudrais inviter toutes les communautés vivant sur le territoire de l'Outaouais et en particulier dans votre belle région de Maniwaki à visiter le Centre de justice de proximité ou en nous appelant au numéro sans frais 1-844-606-4600. Puis vous avez toujours les coordonnées sur notre site Internet et notre page Facebook et Instagram.
Geneviève Gratton, directrice du Centre de justice de proximité de l'Outaouais, un grand merci pour ce retour un peu sur l'histoire et sur la situation actuelle. On revenait, on vous le rappelle, sur cette Journée internationale des droits des femmes qui avait lieu la semaine dernière, mais comme cette chronique nous revient chaque deux semaines, il fallait profiter de l'occasion aujourd'hui. Merci beaucoup, Geneviève, puis on se reparle dans deux semaines.
Merci beaucoup, Sébastien. À dans deux semaines.